Tous les jeudis à 9h30 et 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 9h30 et 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Radio MDM, les rendez-vous littéraires. Excusez-moi, je ne sais jamais faire ça avant de prendre l'antenne. Mais on croule sous les viennoiseries. En veux-tu, en voilà, du pastis de Garin, des chocolatines de Luxeuil. Salut à toi.
Boulangerie Valos.
Ben oui, qui est du côté d'Ibissa. Qui c'est qui s'occupe de la boutique
en ce moment ? Luxeuil, non, mais là, c'était sa compagne qui m'a servi en chocolatine et croissant que je vous ai apporté donc, pour l'équipe de MDM.
C'est formidable. Il arrive, il est le teint allé, il est dans une forme absolument étincelante, il vient toujours au bon moment avec ses pains et ses croissants. Vous l'aurez compris, c'est Romain Baxer. Rebonjour mon cher Romain, puisqu'on s'est déjà dit bonjour en off.
Bonjour Anthony.
Car nous avons un minimum d'éducation, de civilisation même, et c'est de cela dont nous n'allons pas parler ce matin.
Non, nous allons parler de littérature.
Oui,
donc.
Alors là je suis hyper content parce que je tombe des nues. Alors là il n'y a pas de préférence ou de dessus de la pile.
Mais voilà, alors j'ai appris, pour les auditeurs et les auditrices, j'ai appris hier que Aurélie Champagne, pas loin du tout Aurélie Champagne, peut-être qu'un jour elle viendra à la librairie Caractère nous parler de Zébu Boy, le livre donc qui vient de sortir aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, éditions, vous savez, orfèvre du livre. C'est son premier texte.
Et d'emblée, chez Toussaint L'Ouverture, bam.
Voilà, alors on est toujours à l'affût d'un premier roman. Hein, c'est entre autres pour ça que je me suis saisi de cet ouvrage. Alors selon l'éditeur, c'est une longue histoire, l'aboutissement de ce livre, qui date de plus d'une dizaine, voire douzaine d'années en fait, qui est en maturation. Une première version du manuscrit a été retravaillée. Enfin, il y a eu beaucoup de versions, je pense, et beaucoup de travail sur ce texte. Donc Dominique Borde, l'éditeur, n'a publié que cette année, mais c'est un texte en gestation depuis un moment, donc notamment sur Madagascar. Là, on est en plein univers malgache. C'est un livre donc très travaillé, dans le bon sens, dans le sens de la rature. Il est arrivé, je pense, à une espèce de nerf comme ça narratif, si on peut dire. C'est un texte dense, puissant, qui est centré donc sur Zébu Boy, un malgache hors du commun, qui est maître dans l'art du savika. Alors, saviez-vous
que... J'ai découvert en même temps que vous, oui.
Moi également, j'ignorais tout de cette tradition taurine, on peut dire. C'est un combat, en fait, à main nue. Il s'agit de terrasser un zébu dans une arène. Voilà, un homme seul face au zébu.
Mais là, il n'y a pas de pique avant.
Non, là, c'est vraiment à main nue. Donc, les cornes doivent être plus ou moins, je pense, emmaillotées. Toujours est-il que c'est un art de lutte, quoi, le lutte de l'homme contre l'animal, qui est vraiment, vraiment très étonnant. Zébu Boy est un des maîtres, oui.
D'accord, mais est-ce qu'il y a une mise à mort, du coup?
Non, là, il n'y a pas de mise à mort, là, c'est uniquement vraiment terrasser le zébu, quoi, le mettre à terre.
Allez, on est plus
le
proche
dominer.
Je suis pas spécialiste, au Portugal, dans les arènes, je sais plus comment ça s'appelle ça, je vais pas me retrouver le nom.
Ah, ils ont aussi une
tradition. Pendant la pub, on va le trouver, pas les forçados. Un truc forcado,
Il
faut mettre à plusieurs le cornu à mal.
C'est exactement le cas du savika, c'est cet art de combat, si on peut dire, de l'homme contre l'animal. Zébu Boy, donc, comme son nom l'indique, était un combattant émérite, un maître dans l'art de cette lutte contre l'animal à main nue. Là, il est de retour, échappé des camps allemands. Comme soldat, donc se battant pour la France. Il faisait partie du contingent indigène de l'armée française à la Seconde Guerre mondiale. Pour information, c'est un livre très très sourcé.
Je remercie le restaurateur Alexandre Rico qui nous écoute et qui me dit Fourcadeau.
Fourcadeau, c'est bien ça.
Merci Alex.
Et voilà, comme quoi les auditeurs, auditrices.
Si on m'avait dit qu'Alexandre Rico interviendrait dans la rubrique littéraire, alors là, franchement.
Bisous, Alex. Mais la littérature est au confluent de tout un tas d'influences.
Alexandre Rico du 10 bis, je précise.
Eh bien, écoutez, voilà, on le salue. Oui, on le salue bien bas. Donc, Zébu Boy, maître dans l'art du savika ou forcado malgache, revient de la guerre. Il revient en Seconde Guerre mondiale. Il faisait partie, comme je venais de le dire, du contingent indigène qui était captif donc par les Allemands dans les fronts de Stalag. Il y avait à peu près 70 000 soldats indigènes sur les 2 millions de soldats français. Bon, beaucoup sont morts en 41 pendant l'hiver. Donc voilà, s'est engagé volontaire pour la France. qui pourtant colonisait hein, et administrait son pays, revient donc au pays. Donc après 41, Zebuboy est natif du village d'Ambila, hein, qui lui donne aussi son nom. On va voir qu'à Madagascar...
Tout est compliqué à Madagascar.
Tout est compliqué, ouais. Les gens ont plusieurs noms, voilà, c'est ça que j'ai cherché, il revient. Humilié hein, par le peu de considération que lui accorde l'armée coloniale. Hein. Il revient au pays, on lui enlève ses bottes. Vous voyez, c'était pourtant une de ses fiertés hein, de revenir dans son village. Je précise que ouais. J'ai entendu il y a quelques jours un chiffre atterrant sur Madagascar. 9 habitants sur 10 sont en dessous du seuil de pauvreté, moins de 2 dollars par jour. Donc imaginez la situation en 47. Hein, là, on est en 47.
Donc, c'est toujours bouillant.
Un hein. pays complètement voilà, pressuré hein, par l'administration. Administration coloniale française. Et donc, en 47, donc un vent de révolte souffle sur le pays. Zebuboy revient dans ces conditions. Les soldats démobilisés dont il fait partie et une partie radicale des Malgaches, hein, se radicalise, c'est le cas de le dire, se soulèvent contre l'occupant colonisateur français et son administration et ses garnisons. Donc, dans ce contexte insurrectionnel, Zebuboy, ou Ambila, hein, du nom de son village, comme je disais, il y a toujours plusieurs noms à Madagascar, on verra qu'il y a même une coutume validé par l'administration coloniale, lors de laquelle un citoyen, si on peut dire malgache, peut changer de nom. Voilà, tout simplement, il y a un représentant de l'État français qui dit « Oui, très bien, je prends en compte votre changement de nom ». Donc Zebuboy, ou Ambila, dans ce contexte insurrectionnel, lui est obsédé, si vous voulez, par l'idée de reconstituer son cheptel de bétail.
D'accord.
Voilà, lui, on va voir que ce personnage est tiraillé entre un passé prestigieux, hein, la scène inaugurale d'ailleurs du roman... montre toute cette profondeur de la culture malgache. Hein. En effet, la scène inaugurale, je vais vous la raconter rapidement. On voit donc Zebuboy qui est en plein marchandage d'amulettes chez un sorcier. Hein. Là, on rentre dans les croyances magiques hein, des malgaches. Le sorcier, ou appelé Ambiazi, donc fabrique des amulettes qui ont tout un tas de sorts protecteurs. Hein. Donc Ambila Zebuboy est venu lui acheter ses protections magiques pour les ramener en fait au village. Hein. Comme c'est en pleine période insurrectionnelle, les gens veulent se protéger du mal, veulent se protéger des balles. Donc ces amulettes peuvent notamment faire fondre les balles, vous voyez, avant qu'elles arrivent à destination. Voilà, là on rentre vraiment dans les croyances qu'on pourrait appeler vaudous, en fait, où les ancêtres, les morts, les choses inanimées ont une influence sur le réel. Bon, les blancs, nous, on appelle ça de la superstition.
Ouais, hein, ouais. Non, mais j'ai l'impression d'entendre parler du serpent à plumes de Lorenz. Enfin, non, voilà.
Mais écoutez, c'est vraiment
exotique et mystique.
Mais c'est foisonnant, hein, parce que si on revient à cette scène inaugurale.
Oui, on pourrait être à la Nouvelle-Orléans, exactement, voilà, dans les bayous avec les croyances cajuns.
Et pourtant, c'est un roman qui est extrêmement ancré dans le réel. Hein. 47, cette période insurrectionnelle, après la Seconde Guerre mondiale, on voit que vraiment, bon, ben, le colonisateur n'a plus sa place du tout hein, dans le pays. Hein. On sent que ça sent vraiment le sapin, si on peut dire, pour la colonisation française. Donc voilà, Zebuboy, dans ce contexte-là, ça c'est le fil directeur vous voyez, de tout le roman. Il va essayer d'accumuler par tout un tas de rapines, de petites combines, eh bien, du bénéfice pour acheter ses zébus et pour recommencer en fait son élevage qui était prestigieux avant la guerre hein, avec son père. Ils avaient un élevage de bétail reconnu dans toute la région. Donc voilà, c'est vraiment le fil rouge narratif. Il doit acheter ses amulettes et retourner au village en fait pour les redistribuer, enfin les revendre en fait à ses amis, à sa famille. Voilà, ça sera la petite ritournelle du roman, c'est-à-dire faire des bénéfices sur le retour au village. Voilà, donc en pleine ébullition insurrectionnel. Et Zebuboy va croiser toute une galerie de personnages, à commencer par Tantoli, un instituteur Mérina, hein, ces habitants des côtes hein, malgaches, en opposition par rapport aux habitants de l'intérieur.
Je voulais juste vous demander, parce que c'est un premier roman, on a bien compris qu'il s'agissait d'un retour aux sources. Et
Également, voilà, dans la note...
Parce que c'est extrêmement documenté, on imagine, ouais, donc c'est intéressant, il faudrait que je lui pose peut-être la question à elle,
passionnant,
à Wally Champagne.
Mais pour le coup, comme j'ai...
Donc, après cette nouvelle que... dans l'histoire et dans le...
Tout à fait, il y a une énorme... Alors il y a une matière, je pense, très personnelle, hein, également, j'ai cru comprendre, avec les notes d'intention d'éditeur, vous voyez, que... voilà, qu'il y a eu un voyage, un retour un peu au pays, de la part de l'autrice Aurélie Champagne. à des fins d'identité, hein, une sorte familiale, mais également à des fins historiques, documentaires, pour constituer ce roman qui au début, je crois, n'était qu'une nouvelle, hein, qui en fait s'est étoffée au fur et à mesure, notamment de son voyage à Madagascar. Donc également là, tout ce qui est la partie historique, c'est hyper dense, quoi. On peut le voir dans la bibliographie sélective qu'elle a mis à la fin de l'ouvrage, les remerciements à un maître de conférence en ethnologie, à des historiens. C'est vraiment très très fouillé, sans du tout bien sûr gêner la narration. Hein. Écoutez, là on peut le voir parce que si vous voulez, toutes ces recherches, cette documentation, alors là ça apparaît quasiment pas, si vous voulez, dans le récit. On voit que c'est vraiment l'arrière-plan, quoi, l'arrière-plan du récit, tout ce contexte malgache insurrectionnel. Donc on dit que c'est très très précis. On peut bien sûr voir des exactions de l'armée française, hein, face à ces rébellions, ce qui fait que c'est un roman quand même hypnotisant, hein, baigné des croyances malgaches, hein, au rythme presque effréné. Mais voilà, répétons-le, c'est un texte puissant, sombre, mais toujours éclairé, vous voyez, par cette espèce de légèreté propre au personnage de Zebu Boy, qui est gouailleur, qui est roublard, hein, qui est calculateur pour se faire ses bénéfices. Mais à la fois, il a un abord très naïf, hein, face à la vie, hein, ce Zebu Boy, à la force et à la beauté légendaire, hein, parce que c'est un fabuleux combattant de Zavika, mais également un don Juan, hein, c'est un très bel homme, hein, comme il est décrit, qui va donc affronter les événements, à la fois amusé, parfois bien sûr plus, si on peut dire, dans la douleur de certains combats, de certaines résistances, de certaines luttes pour retrouver son statut perdu. C'est vraiment vraiment un roman hypnotisant. Zebu Boy par Aurélie Champagne aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Vraiment, écoutez.
Ouais, non, mais j'ai qu'une envie, c'est de vous faire une CB, là. Vous n'avez pas ça sur vous.
Mais vraiment, allez-y, parce que c'est vraiment un rythme, un gros rythme, du début à la fin, avec. On ne va pas trop dévoiler.
Le
parcours de Zebu Boy, jusqu'à la fin, qui va être.
Tout est bon. L'auteur est bon et ça fait envie. Je feuillette, je vous écoute avec une oreille attentive et l'autre est sur le livre.
Déjà en train de le lire, ça n'arrive pas souvent.
C'est quelqu'un d'assez attachant au moins aussi talentueux. Et j'espère qu'on vous aura l'occasion de la recevoir.
Et bien ravi.
Pour surtout que c'est le premier roman et puis.
Ravi.
Et puis chapeau Aurélie, quoi.
On est bon. Aurélie, à très bientôt dans ce cas-là.
Très bien. On continue à parler littérature, on va faire un pont musical d'ailleurs avec Mada, avec Tananarive et Saint-Martin-Donné, puisque c'est là qu'ils ont trouvé, alors ils n'ont pas trouvé refuge, mais c'est devenu leur terre d'adoption, le groupe des Dizzy Brains. Il y a justement, alors ça tombe bien, on est dans l'actualité, leur dernier clip qui est sorti hier, qui a été envoyé sur tous les réseaux sociaux et sur toute la toile. Le morceau s'appelle Fat Man, comme ces politiques, vous savez, qui ont un double menton et qui font du cholestérol, parce que évidemment, la soupe est bonne. On écoute ça et on se retrouve juste après les Dizzy Brains sur MDM.
MDM, plus proche de chez vous.
Fire. I'm a fat man. It's my back. faites vos valises.
Faites vos valises.
Restez sur MDM.
MDM.
C'est de l'énergie et de la furie, le rock'n'roll du groupe malgache des Dizzy Brains, que les Saint-Martinoises et Saint-Martinois connaissent bien, puisqu'ils se sont installés dans l'agglomération montoise depuis quelques années. On peut les croiser régulièrement, d'ailleurs, dans le centre-ville montois, ou le soir sur d'autres scènes, aller applaudir les confrères, décidément.
Voilà, Saint-Jean-de-Doute, notamment.
Par exemple,
on les a vus par là.
Oui. Mais oui. Et je vous recommande l'album. Qu'est-ce que vous nous recommandez d'autre? On était à Madagascar avec Aurélie Champagne. Ouais. On revient en Europe, le sud de l'Espagne.
Ouais, voilà, exactement, dans la petite vallée d'Ordesa. C'est le titre du livre de Manuel Vilas aux éditions du Sous-Sol, un auteur donc espagnol. Alors là, la différence d'Aurélie Champagne, c'est un auteur confirmé, on va dire, oui. comme ils disent. C'est un auteur espagnol, voilà, né en 1962, donc la soixantaine approchant aujourd'hui. C'est un texte classé comme non-fiction, c'est le récit vrai, si on peut dire en français. Là, c'est le récit d'un homme qui se livre, en fait, tout simplement. Ordesa. À souligner d'ailleurs la traduction, qui rend vraiment la force de ce texte, comme le texte précédent, c'est vraiment un texte. Un texte très très puissant. C'était un succès d'édition en Espagne l'an dernier, classé en 2018 par El País et El Mundo comme le livre de l'année. Là, je vous avoue, c'est ça qui a attiré mon attention pour la lecture de Ordesa. Donc voilà, c'est le récit que fait cet homme, l'auteur donc. Là, il y a l'analogie auteur et héros, si on peut dire, auteur et narrateur. Peu de temps, voilà, après la mort de ses parents âgés, à quelques années d'intervalle, il prend la plume. Il se retourne sur sa vie et examine sans concession ni illusion aucune sa vie d'alors, passée mais aussi présente. Il y a assez peu de futur dans ce livre, c'est très on revient sur le passé, sur la mémoire.
C'est dur
et sur le présent. Voilà,
alors, je suis avec la quatrième de couve, c'est
alors
pour ça.
C'est
je vous fais un camoulox, c'est un émo que je trouve fantôme, alcoolisme, deuil et condamné.
Voilà, c'est le talent. C'est le talent du critique littéraire, le camoulox.
Mort, bien sûr.
Voilà. Alors, je vous rassure, ce sont des chapitres brefs, denses, quelques pages à
comme
chaque fois.
Comme la vie.
Voilà, pourrait le dire, poète, philosophe, c'est monsieur efficace. Anthony, tout à fait. Mais ma chronique ne sera pas détruite de si bon chemin.
Non, vous me connaissez bien. quand je m'emporte comme ça, c'est que voilà.
Je laisse passer l'orage et ensuite je reprends la.
Écoutez, c'est brut et sans tabou. voilà ce qu'on peut dire.
Non, je laisse passer l'orage et je reprends ensuite la barque et le gouvernail.
Vous ne laissez pas dominer par mes fulgurances.
Mais
qu'est-ce qui se passe?
Je serai bref comme ces chapitres brefs dont je vous parlais juste avant. Voilà, 400 pages, 173 chapitres.
Fais une petite règle de 3, ça nous fait du 2,7.
Voilà, 3 et pages. Bien calculé. Alors, c'est vrai que le livre, vous avez raison à la lecture de la quatrième, le livre s'ouvre sur des phrases assez sentencieuses, mais comme pour évacuer les évidences. Vous voyez, je vais vous en lire quelques-unes. Nous sommes tous...
Vous l'avez écrit avant de venir, ça.
Hier soir.
Bravo.
Regardez.
J'adore.
Je cite, nous sommes tous de pauvres gens engagés dans le tunnel de l'existence.
Mm-hmm.
Vanité des conversations, vanité de celui qui parle, de celui qui répond, vanité négociée pour que le monde puisse exister.
C'est mieux, ça finit mieux.
D'accord.
C'est parti sur un truisme et puis ça finit mieux.
Non, ça finit bien. Et en même temps, si on peut dire, de très belles phrases sur l'amour. Cet amour qui, malgré la mort d'être aimé, ne part pas. Cet amour qui dure malgré l'absence. Vous voyez, très très belle phrase là-dessus. Pour revenir donc sur le cas Manuel Vilas, si on peut dire. Mmh. Voilà, il avait un père représentant de commerce en étoffe qui a sillonné l'Aragon dans les années 60-70 pour vendre à des tailleurs ses produits, employés à son compte. Il touchait une commission sur les ventes. C'était un peu un franc-tireur comme ça, qui n'était pas assujetti à une entreprise en particulier. Il revendait, il touchait une commission. Sa mère était mère au foyer, élevait les enfants. C'est vraiment un récit de cette classe moyenne, de ce couple, la beauté reconnue par les habitants de Barbastro, donc cette ville aragonaise où il a grandi. Il y a très peu d'éléments, de la vie de Manuel Vilas dans ce livre. C'est étonnant parce qu'il parle pourtant de son enfance, il parle de son éducation.
Je reviens vite à l'amour. J'ai pas vu le temps. Sur la thématique de l'amour.
Oui, l'amour, ben, notamment l'amour des parents.
D'accord.
Vous voyez, l'amour des parents qui, alors que les parents ne sont plus là, l'amour survit toujours. Oui. Donc, vous voyez, ça étudie.
L'amour, aussi. C'est comme une tache de vin sur du tergal. Si tu en verses, t'as beau frotter, ça part pas. C'est tout.
Voilà. Alors, passez la première stupeur de votre déclamation, Anthony, ou de la force de ce livre. Hein, parce qu'on peut dire qu'on peut être frappé de stupeur tout à fait devant aussi bien ce livre que vos propositions poétiques. On s'habitue en fait à côtoyer cet homme, hein, la lecture de Ordessa, on s'habitue à côtoyer donc cet homme, l'auteur, qui livre voilà, une vérité crue, hein, j'en ai bientôt fini, la vérité crue dans toute sa lumière. Alors parfois détresse, parfois c'est une illumination d'émotions pures. Hein, si on peut dire. Alors bien évidemment, comme je le disais juste avant, ce sont des grands thèmes hein, qui sont brassés par la littérature mondiale également. La mémoire, l'identité, la mort. C'est vraiment également un livre important sur la filiation, sur la relation avec ses parents, mais aussi avec ses fils. Ce sont aussi les lâchetés de cet homme, hein, l'auteur, comme les rébellions héroïques hein, contre l'enlisement dans le quotidien. Par exemple, il raconte l'impossibilité d'aller aux enterrements de ses proches. Voilà, lui, il peut pas, c'est trop dur.
Je comprends.
Il n'y va pas, voilà, par exemple, et il le dit dans toute sa crudité, hein, vous voyez, c'est quand même c'est assez rare, hein, quelqu'un qui dit, bon, voilà, moi, c'est pas possible.
Je vais pas m'étonner.
Voilà. Donc, vraiment, un homme se livre dans cette Espagne des années 70-80, où l'amour à ses parents devient presque matériel, hein. Je reviens à cet amour. Ouais. Cet amour se matérialise, par exemple, parfois, tout simplement, quand on réalise qu'on agit comme son père ou comme sa mère sur une petite situation du quotidien, voilà, lui arrive de manière littéraire, à faire ressortir cette présence. Vous voyez que parfois, on est tous farcis de déterminisme, de notre famille, notre éducation. Enfin, vous voyez. Et donc, ça, c'est le talent. Oui. C'est le talent de l'auteur, hein, qui n'est pas sociologue, qui n'est pas. Qui est vraiment un auteur de poésie, d'ailleurs. Hein. Manuel Villas a écrit beaucoup de poèmes. Il n'y a qu'un seul livre traduit. Là, c'est le second livre, donc, traduit aujourd'hui. Donc, vraiment plongé hein, dans la puissance évocatoire de ce récit, qui est vraiment un récit à l'os, hein, comme on dit. Une traduction directe, vraiment, qui donne un souffle de vie à ce livre. Vraiment, je répète, très important, et selon les mots d'un autre auteur majeur espagnol, Javier Cercas, ce livre est magnifique, courageux et bouleversant. Donc plongez-vous dans Ordessa de Manuel Villas aux éditions du Sous-Sol. Très très grand livre qui est sur la liste d'ailleurs du Femina étranger ou du Médis étranger. Okay. Enfin, vraiment très très grand roman Ordessa, Manuel Villas.
C'est toutes les perspectives qu'on souhaite aussi donc à Zebu Boy et Ordessa. Hein, voilà, et au milieu coule une lumière. J'avais envie de terminer par ça parce que c'est la beauté.
De la littérature américaine.
Beauté et eux-mêmes, je fais ce que je veux.
Esthète, littérateur, vraiment.
Alors, trêve de locution latine, des choses qui se passent du côté de la librairie ou la saison.
Écoutez, là, ça va reprendre plutôt fin septembre.
Fin septembre.
Là, c'est vrai qu'on va essayer de gérer, d'absorber, de lire, de trier cette rentrée littéraire foisonnante. Donc, on se laisse encore un peu de marge jusqu'à fin septembre, dernier week-end de septembre principalement.
Eh bien, écoutez, ma souplesse légendaire va faire que je vais ronger mon frein. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup, Romain.
Mais à très bientôt.
J'entends bien.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 9h30 et 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.